Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud, traité Yebamot, page 40, daf mem. Bonne écoute et bon limoud.
Parce qu'au début, avant qu'on ait sanctifié cette farine pour en faire un korban mincha, elle était permise à lui, il pouvait en faire ce qu'il voulait. Nesra, quand elle a été interdite, parce qu'on l'a sanctifiée en tant que korban, Vechazra Vroutra, et par la suite, elle est devenue permise au Kohen, parce que maintenant c'est le reste de la mincha, donc après qu'on ait fait la mitzvah de Kmitza, Yachol Tarzor Lehetera Rishon, on aurait pu croire qu'elle revienne à son état de permission initiale. Talmud Lomas, c'est pourquoi le pasuk nous dit, Matzot Teachel de Makom Kadosh, elle sera mangée en tant que matzot dans un endroit sanctifié. Mitzvah, cela est une mitzvah. Alors la Gemara expliquera. Bishlama le Rava, on comprend bien selon l'avis de Rava d'Amar, Haman et Rabanan qui disait que l'auteur de la deuxième partie de la Breta est Rabanan. Par conséquent, en fait, ce que le pasuk nous enseigne, pas comme ce qu'on aurait pu croire qu'il a le choix d'accomplir la mitzvah ou pas, mais là, il a l'obligation de faire la mitzvah. Alors ici, nous dirons la même chose. Hachachika Amar, ici, c'est ainsi que la Breta a voulu dire. Matzot te'achel b'makom kadosh. Le reste de la mincha sera mangé en tant que matzot dans un endroit sanctifié. Mitzvah, c'est une mitzvah. Chez Bitrila, haïta la bechaleter, au début, avant qu'on ait sanctifié cette mincha, en tant que, donc pour la destiner, en tant que, pour offrir, être offert en tant que korban mincha, elle était permise à lui, c'est-à-dire, ratza ochla, ratza ena ochla. S'il voulait, il pouvait la manger, s'il voulait, il pouvait ne pas la manger. Nesra, puis elle est devenue interdite. Quand on l'a destinée à être offerte en tant que korban mincha, personne n'avait le droit d'en consommer. Chazra veoutra, à la suite de la mitzvah, qu'on a offert une partie sur le misbéach, elle est devenue permise au kohen. Yachol tarzor l'etera rishon, on aurait pu croire qu'elle revienne à son état de permission initiale, ce qui veut dire ratza ochla, ratza ena ochla. S'il voulait, il pouvait la manger, s'il voulait, il pouvait ne pas la manger. Alors là-dessus, la Gemara interrompt tout de suite et demande ratza ena ochla. Est-ce que s'il veut, il peut ne pas la manger? Ve'aktiv, voici que le pasuk dit dans Parashat Shemot Perekavtet, ve'achlu otam asher kupar bahem. Ce pasuk parlant de l'intronisation de Aaron et de ses fils, alors le pasuk dit qu'ils mangeront la viande des korbanot après avoir aspergé le sang sur le misbéar, parce que ils ont été nettoyés de toute souillure par les korbanot offerts à l'occasion de l'intronisation. Ce pasouk étant trop, parce que le pasouk dit déjà par ailleurs que Aaron et ses enfants mangeront la viande des korbanot offerts à l'occasion de leur intronisation. La Gemara interprète, mais la Medcha Kohanim Ochlim, le pasouk vient nous enseigner que les Kohanim mangent la viande du korban, ou Baalim et Kaprim, et les propriétaires obtiennent ainsi le pardon. Donc nous voyons ici que le Kohen n'a pas le choix, il est obligé de manger les restes du korban. Alors, pourquoi est-ce que le pasouk a besoin de nous l'enseigner à nouveau que le Kohen a besoin de manger le reste du korban? Et là, c'est pourquoi nous dirons que le choix que le Kohen a, ratza hu ochla, s'il veut, le Kohen qui a offert le korban ou qui a offert la mincha peut manger lui-même les restes. Ratza Kohen acher ochla, s'il veut, c'est un autre Kohen qui mangera les restes. Talmud Lama, c'est pourquoi le pasouk nous enseigne, matzot te'achel b'makom kadosh. Le reste du korban mincha sera mangé en tant que mincha dans un endroit sanctifié. Mitzvah, c'est une mitzvah, c'est-à-dire c'est le Kohen qui aura offert cette korban mincha qui a sur lui la mitzvah de manger les restes. Donc nous pouvons très bien interpréter cette partie de la Braïta selon l'avis de Rabbanan. Et là, le Rabbi Yitzhak bar Avdimi, d'Amar Abba Shaul, par contre, selon le Rabbi Yitzhak bar Avdimi qui dit que l'auteur de la Braïta était Abba Shaul, et qui disait que le pasuk vient nous enseigner qu'il n'y a pas deux manières d'accomplir la mitzvah, hachamait regavneika. Ici, quelles deux manières y a-t-il d'accomplir cette mitzvah, de manger les restes de la mincha? Vechitema ratzalete avon ochlas. Et si tu veux me dire que la Breta veut nous enseigner qu'on aurait pu croire que s'il veut, il pouvait la manger avec appétit, ratza achila gasa ochla, bien s'il voulait, il aurait pu la manger étant tellement rassasié que manger n'importe quoi lui cause du mal. La Gemara demande, achila gasa mishma achla, manger étant tellement rassasié que manger n'importe quoi lui fait du mal, est-ce que cela est considéré comme étant mangé? Est-ce que le pasuk a besoin donc de nous enseigner qu'il a une mitzvah de le manger le reste de la mincha avec appétit? Veha amar Resh Lakish, voici que Resh Lakish a dit, Haochel achila gasa beyom kippourim, celui qui mange étant tellement rassasié que le fait de manger lui fait du mal, et cela pendant Yom Kippour, patour, il est patour, il n'a pas transgressé l'interdiction de manger pendant Yom Kippour. Pourquoi? Parce que le pasouk Milo Teune, parce que le pasouk dit, celui qui n'aura pas souffert pendant Yom Kippour par le fait de ne pas manger, sera retranché, aura la peine de karet. Donc, puisque le pasouk emploie le terme de celui qui n'aura pas souffert, là, au contraire, cette personne a souffert par le fait qu'elle a mangé, donc il n'a pas transgressé cette interdiction. Donc nous voyons que ce n'est pas considéré comme manger. Le pasouk, par conséquent, n'a pas besoin de nous enseigner que ce n'est pas ainsi qu'il faut manger le korban. Et là, seulement peut-être, il y a quand même une possibilité d'interpréter le pasouk comme ayant deux manières de manger les restes de la mincha. Et nous dirons ainsi, Ratsa Matsa Okhla, s'il veut, il la mangera en tant que Matsa. Ratsa Chametz Okhla, s'il veut, il peut la manger en étant Chametz, c'est-à-dire en laissant lever la pâte. Ve'aktiv, là aussi c'est impossible, parce que le pasouk dit dans Vaikra Perek Vav, donc toujours au début de Parashat Tzav, Lotea Fe Chametz, on ne pourra pas cuire cette mincha en tant que Chametz, il ne faudra pas laisser lever la pâte. Ainsi du pasouk est, Chelkam Natati Otam Meishai, leur part, je leur ai donné de mes feux, de ce qui revient au misbéar. Alors, la Gemara interprète ici, Vamar Resh Lakish, Afilu Chelkam, Lo Teafer Chametz, même la part qui revient au Kohanim, donc les restes de la mincha après qu'on en ait prélevé une partie pour l'offrir sur le misbéar, on ne pourra pas la cuire Chametz, c'est-à-dire en laissant monter la pâte. Donc finalement, nous voyons qu'il est impossible de faire cuire les restes de la mincha d'une manière Chametz. Et là, Ratsa Matsa Ochla, seulement, peut-être que nous pourrons interpréter les deux manières de faire cette mitzvah de manger le reste de la korban mincha. Ratsa Matsa Ochla, s'il veut, il peut la manger en tant que matza. Ratsa Chalut Ochla, s'il veut, il peut la manger bouillie dans de l'eau bouillante. Donc là, la pâte n'a pas levé, mais ce n'est pas devenu de la matza. La Gemara demande, Hay Chalut Echidami, cette pâte bouillie dans de l'eau bouillante, comment, de quoi il s'agit? I Matzahi, si cette pâte bouillie dans de l'eau est considérée de la matza, Hamatzahi, c'est de la matza. Donc finalement, le pasouk ne nous enseigne pas qu'on ne peut pas manger le reste de la mitzvah, de la matza, de la mincha. Ainsi, Vei lo Matzahi, et si ce n'est pas considéré comme de la matza, Matzah Tamarachmana, puisque la Torah nous a dit par ailleurs qu'il faut manger le reste de la mitzvah, de la mincha en tant que matzot, donc s'il la bouillit dans de l'eau, ce n'est pas de la matza. La Gemara répond, Le'olam emalecha matzahi, toujours pourrais-je te dire que de la pâte bouillie dans de l'eau, c'est considéré comme de la matza. Ou la chitana bekra le'akev. Et en fait, ce que la Braïta nous enseigne ici, que le pasouk vient insister ici sur le fait qu'il faut de la bonne matza, et par conséquent, de la pâte bouillie dans de l'eau, ce n'est pas de la bonne matza. En d'autres termes, donc, nous interpréterons la Braïta maintenant selon l'avis de Abba Shaoul. Nous dirons que avant que cette farine ait été destinée à être offerte en tant que korban mincha, ils pouvaient la manger n'importe comment, c'est-à-dire soit cuite dans le four, soit bouillie dans de l'eau. Une fois qu'elle est devenue mincha, elle est devenue interdite à la consommation. Après qu'on ait prélevé une partie pour l'offrir sur le misbéar, elle est devenue permise pour les kohanim. On aurait pu croire donc qu'elle reviendrait à son état de permission initial et on pourrait la manger soit en tant que matza, soit bouillie dans de l'eau. C'est pourquoi le pasouk vient nous dire qu'il y a une mitzvah de la manger en tant que véritable matza, c'est-à-dire cuite au four et non pas bouillie dans de l'eau. La Gemara demande, et la chalut matzahi de kamrinan, et le fait qu'on considère de la pâte bouillie dans de l'eau comme de la matza, le maï hilcheta, quel halakha sort de là, puisque finalement, on ne pourra pas consommer le reste de la mincha bouillie dans de l'eau. La Gemara répond, l'omar, cela vient nous dire, shadam yotseba hideh chovato bepesach. Une personne peut se rendre quitte de son obligation de manger de la matza en mangeant de la pâte bouillie le soir du seder. Afalga, afalpi de chalte meikara, et bien qu'il l'ait fait bouillir cette pâte dans de l'eau avant de la passer au four, kivan de hadar afir betanur, puisqu'il a à nouveau cuite dans le four, lechem onikarinabe, on appelle ça du pain de pauvre, ve adam yotsebaï de chobato bepesach, et une personne peut se rendre quitte de son obligation de manger de la matza le soir du seder. Nouvelle Mishnah. Hacholet libinto, celui qui fait la chalitza à la candidate ou iboum, hareu keechad minachim le nachala, il est comme tous les frères pour l'héritage. Ils partageront, tous les frères partageront donc l'héritage, qui a été légué par le frère défunt, équitablement. Si le père est encore vivant, ce qui a été légué par le frère défunt appartiendra au père. Hakones et Yebinto, celui par contre qui se marie avec la candidate au Yiboum, c'est-à-dire il accomplit la mitzvah du Yiboum, Zacha ben Chassim shel Achiv, il a mérité tout ce qui a été légué par son frère. Rabbi Yuda Omer, ben kar ou ben kar, dans tous les deux cas, c'est-à-dire soit s'il a fait la Khalitza, soit s'il a fait le Yiboum, im yesham av, si le père est encore vivant, Nechassim shel Av, l'héritage, donc ce qui a été légué par le frère défunt, revient au père. La Gemara demande, pourquoi est-ce que dans la Mishnah nous enseignons que celui qui a fait la Khalitza, il sera comme l'un des frères pour l'héritage? Fita, c'est évident. La Gemara répond, Salkadata Khamina, nous aurons pu croire que Khalitza bim comme Yiboum, Kaima, que la Khalitza est considérée comme le Yiboum, Venishkol Kulhu Nirse, et par conséquent, il prendrait tout l'héritage. Kamash Malan, c'est pourquoi la Mishnah nous enseigne qu'il sera à égalité, qu'il devra partager l'héritage avec ses frères. Yahi, la Gemara demande si c'est comme ça, puisque la Mishnah va nous enseigner que par le fait qu'il a fait la Khalitza, il ne reçoit pas la totalité de l'héritage. Hare uke echad min achim, la Mishnah nous enseigne, il est comme l'un des frères, ce n'est pas comme ça qu'il aurait fallu enseigner. Et Noéla, ke echad min achim, il va aller. La Mishnah va nous enseigner, il ne sera que comme l'un des frères, par conséquent, il devra partager l'héritage. Pourquoi la Mishnah nous dit d'une manière positive, il sera comme l'un des frères? La Gemara répond, et là, c'est pourquoi nous dirons, Salkadata Khamina, j'aurais pu croire que Ho'il d'Afsedah Mi'iboum, par le fait que ce Yabam a fait la Khalitza, finalement, il a fait perdre à cette candidate au Yiboum la possibilité de faire le Yiboum. L'Iknasé, on n'a qu'à le pénaliser et qu'il perde sa part dans l'héritage. Kamash Malan, c'est pourquoi la Mishnah nous enseigne qu'il sera comme l'un de ses frères, c'est-à-dire ils partageront tous équitablement cet héritage, et même lui qui a fait la Khalitza n'aura pas perdu sa part. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit « Imieshamav, si le père est encore vivant, c'est à lui que revient l'héritage. » Dehamamav, parce que un des rabbanim a dit, c'est d'ailleurs une Mishnah dans Bava Batra d'Afkouf Tetvav, « Av kodem le kol etzerecho » le père devance toute sa descendance pour l'héritage. C'est-à-dire, une personne qui meurt, c'est ses enfants qui l'héritent. S'il n'a pas d'enfants, donc, il faut l'héritage doit être partagé avec la famille la plus large. Alors, c'est son père qui passe avant. Si son père n'existe pas, alors, ce sera la descendance du père qui héritera, c'est-à-dire, donc, les frères du défunt, ou bien leurs enfants. Et sinon, on remontera encore la filière plus haut. Donc là, donc, nous voyons dans cette Mishnah que le père hérite avant ses enfants. Par conséquent, dans le cas d'une personne qui est morte sans laisser d'enfants, c'est le père qui est l'héritier légitime. Donc, on prend le passage de la Mishnah qui dit « Hakones et Yebinto », celui qui se marie avec la candidate au Yiboum, c'est-à-dire celui qui fait la mitzvah de Yiboum, c'est à lui que revient l'héritage. « Maïtama », pourquoi? Parce que le pasouk dit à propos de celui qui fait le Yiboum « Yakub al-Shem Achiv Amarachmana ». Il s'élèvera à la place de son frère, c'est ainsi que la Torah a dit. Veharekam, et voici qu'il s'est élevé à la place de son frère, puisqu'il a continué à perpétuer sa famille. C'est pourquoi, donc, il recevra son héritage. La Gemara reprend le passage de la Mishnah qui dit, Rabbi Yuda Omer, donc la vie de Rabbi Yuda est, que dans tous les cas, soit si on a fait le Yiboum, soit si on a fait la Khalitza, si le père est encore vivant, c'est à lui que revient l'héritage. Amaroula, halakha ke Rabbi Yuda. L'alakha est comme Rabbi Yuda, et dans le cas où le père est vivant, c'est lui qui reçoit l'héritage. Vechenam Rabbi Yitzhak bar Nafra, halakha que Rabbi Yuda, que l'alakha est comme Rabbi Yuda. Ve'amar ula bitema Rabbi Yitzhak Nafra, maitama de Rabbi Yuda. Quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Yuda? Dirtiv, parce que le pasouk dit, ve'haya ha-bechor asher teled. Et l'aîné qu'elle mettra au monde, il s'agit donc de, toujours de cette candidate au Yiboum, à la suite du Yiboum, le pasouk dit, et l'aîné qu'elle mettra au monde. La suite du pasouk est, Yakum al-Shemachiv s'élèvera à la place de son frère. Alors, plus haut dans la Gemara d'Afrab d'Alef, nous avons vu que ce pasouk ne veut pas du tout dire que c'est l'aîné qui, issu de l'union entre les Abam et les Abama, qui s'élèvera à la place du défunt, mais ce pasouk se rapporte au Yavam. Et donc nous disons que le Yavam est considéré comme l'aîné et c'est lui qui s'élèvera à la place de son frère. Alors là-dessus, Rabbi Yehuda interprète Ma kebechor, nous comparons le Yavam au Bechor, à l'aîné, c'est-à-dire Ma bechor en lo bechayav, de la même manière que l'aîné n'hérite rien du vivant de son père. Af hainami en lo bechayav, alors celui-là aussi, donc le Yavam, n'héritera rien du vivant de son père. La Gemara demande, I ma bechor notel pishtaim lachar mitat ha'av. Alors, nous allons dire aussi que de la même manière que l'aîné reçoit une double part à la suite de la mort de son père, afhay notel pishtaim lachar mitat ha'av. Alors, le Yavam aussi recevra une double part à la suite de la mort de son père. Et celui-là, donc, ce Yavam, même si ce n'est pas l'aîné, il recevra une double part dans l'héritage du père. Là-dessus, la Gemara répond, Mide yakum al shem adiptiv. Est-il écrit dans le pasouk, il s'élèvera à la place de son père? Yakum al shem achiv ktiv, il s'élèvera à la place de son frère. Velo al shem aviv, et non pas au nom de son père. En d'autres termes, c'est de ce pasouk de Yakum al shem achiv, il s'élèvera au nom de son frère, qu'on apprend que le Yabam reçoit tout ce qui a été légué par le frère. Puisque au moment du hiboum, il n'a rien reçu, puisque selon l'avis de Rabbi Yehuda, c'est le père qui l'a hérité. Finalement, maintenant, quand il viendra hériter, il veut hériter le père. Là-dessus, le pasouk n'a rien dit. Le pasouk n'a rien pas dit qu'il s'élèvera au nom du père ou qu'il hériterait le père parce qu'il a fait le hiboum. Par conséquent, il n'aura rien de plus que ses frères. La Gemara demande, « Ema hecha delekav » On n'a qu'à dire que quand il n'y a pas de père, « Delishkon achala » de manière à ce que les Abam puissent recevoir ce qui a été légué par son frère défunt, « Titkaï mitzvah tiboum » Alors la mitzvah de hiboum pourra être accomplie. Par contre, « Hecha deikav » Là où le père est encore vivant, « Deloshakin achala » Et par conséquent, le Yabam ne pourra pas recevoir ce qui a été légué par son frère, l'otit kayem mitzvah tiboum. Alors finalement, nous dirons aussi qu'il n'y a pas de mitzvah de faire le yiboum. La Gemara répond, midei yiboum benachalat ala rahmana. Est-ce que le yiboum dépend de l'héritage? Yiboum et miyabem. La Torah nous dit de faire le yiboum. Vei kanachala shekule. S'il y a un héritage, le Yabam recevra ce qu'il y a. Veilo. S'il n'y a pas d'héritage pour n'importe quelle raison, lo shakil, le yabam ne recevra pas. C'est-à-dire le yiboum ne dépend finalement pas de l'héritage. Yativ Rav Hanina Kara Kamed Rabbi Yanaï. Rabbi Hanina, qui connaissait bien les psukim, était assis devant Rabbi Yanaï, Yativ Kamar, et il était assis et il disait la chose suivante. Halacha Rabbi Yuda, l'alacha est comme Rabbi Yuda. Amarle, Rabbi Yanaï leur dit, Pouk Kare Kariach Ibra. Va lire tes enseignements à l'extérieur du Beit HaMidrash, parce que en halakha ka Rabbi Yehuda, en fait la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, mais quand le hiboum s'accomplit, c'est le yabam qui reçoit ce qui a été légué par son frère. Tane Tana Kamed Rav Nachman, il y a quelqu'un qui connaissait les Braïtot, qui a enseigné devant Rav Nachman, en halakha ka Rabbi Yehuda, que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Amarle, le Rav Nachman lui a demandé, Et la Keman, alors comme qui tu veux que ce soit la halakha qui rabbanan, que la halakha soit comme rabbanan, pita c'est évident, parce que yachid verabim, halakha qui rabim, quand on a une discussion entre une personne et un public, c'est-à-dire entre un tana et beaucoup de rabbanim, la halakha est comme la majorité. Amarle, alors celui qui a enseigné cette braïta, a dit à Rav Nachman, Ismaïe, alors je vais effacer cette braïta de mes enseignements. Amarle, alors Rav Nachman lui a répondu, l'eau, tu n'as pas besoin de l'effacer. Parce que, at, halachat niyach. Moi, quand je t'avais. À l'origine, en fait, je t'avais enseigné que la halacha est comme Rabbi Yehuda. Ou mukshe ou d'akshelach. Seulement, à toi, c'était difficile d'accepter cet enseignement parce que tu savais que la halacha devait être comme la majorité. Ve'afrat, et tu as inversé cet enseignement, tu as commencé à enseigner en halacha que Rabbi Yehuda. La halacha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Ou le maïd afrat, et après que tu as inversé cet enseignement, shapir afrat, tu as bien fait de le faire parce que, en fait, la halakha est effectivement pas comme Rabbi Yehuda, mais comme Rabbanan. Et par conséquent, quand le hiboum a été fait, c'est celui qui a fait le hiboum qui aura ce que des frères défunts a légué. Nouvelle Mishnah. Hacholetz libimto, celui qui fait la chalitza à la candidate au hiboum, ou asur bikrovotea, il n'aura pas le droit de se marier avec les membres de sa famille. Vihi asura bikrovav, et elle n'aura pas le droit de se marier avec les membres de sa famille.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Daf Mem Amoud Bet. Et cela parce que celle dont on a fait la Khalitsa peut être confondue avec sa femme divorcée. Par conséquent, tous les membres de la famille qui devraient être interdits dans le cas d'une femme divorcée seront interdits aussi dans le cas d'une candidate au Iboum qui aura fait la Khalitsa. Par conséquent, Hu Asur Beima, il n'aura pas le droit de se marier avec la mère de cette candidate au Iboum, ou Beimima ou Beimavia, et il n'aura pas le droit de se marier ni avec sa grand-mère maternelle, ni avec sa grand-mère paternelle, ou Bebita, il n'aura pas le droit non plus de se marier avec sa fille, ou Bebatbita, ou Bebatbena, ni avec sa petite-fille à elle, c'est-à-dire ni la fille de sa fille, ni avec la fille de son fils. Ou Beachota, Bizman Sheikhaemet, et non plus, il n'aura pas le droit de se marier avec la sœur de cette candidate au Iboum tant que celle-ci est encore vivante. Ve'achim utarim, par contre, les frères de ce Yabam qui a fait la Khalitsa aura le droit de se marier avec les membres de la famille de celle qui a fait la Khalitsa. Ve'hi asura be'aviv, et elle n'aura pas le droit de se marier avec le père de celui qui a fait la Khalitsa, ou be'aviv, ni avec son grand-père paternel, ou be'beno, ni avec le fils de celui qui a fait la Khalitsa, ou be'ben-beno, ni avec le petit-fils de celui qui a fait la Khalitsa, c'est-à-dire le fils de son fils, ou Be'achiv, elle n'aura pas le droit non plus de se marier avec son frère, ou Be'ben-Achiv, ni avec le fils de son frère, c'est-à-dire avec son neveu. Mutar Adam Bekrovat Tsarat Khalutsato, une personne a le droit de se marier avec un membre de sa famille, de la rivale de celle qui a fait la Khalitsa, c'est-à-dire, bien que les Chachamim ont interdit, comme nous avons vu dans la Mishnah, de se marier avec les membres de la famille de celle qui a fait la Khalitsa, mais avec sa rivale, bien qu'elle était aussi candidate au Iboum, puisque ce n'est pas elle qui a fait la Khalitsa, ses membres, les membres de sa famille, seront permis à celui qui a fait la Khalitsa. Par contre, Ve'asur Betsarat Krovat Khalutsato, par contre, il n'aura pas le droit de se marier avec la rivale de la membre de la famille de celle qui a fait la Khalitsa, la Gemara expliquera. Alors, la Gemara demande, Iba Elehu, une question s'est posée à propos de cette Mishnah. Plus haut dans Daf Kafalef, il est question de membres de la famille proche au second degré que les Chachamim ont interdit de se marier avec, notamment des membres de la famille de la femme qui seraient proches au second degré. La Gemara demande, Gazru Shniot Bechalitza Olo, est-ce que par rapport à celle qui a fait la Khalitsa, on a le droit de se marier avec les membres de sa famille qui sont proches au second degré? Est-ce que les Chachamim l'ont interdit ou non? La Gemara explique, Be'erva Doraita. S'il s'agit de quelqu'un qui serait interdit minatora par un interdit de herba, Gazru Behu Rabbanan Shniot, les Chachamim ont aussi interdit ceux qui sont proches au second degré. Puisque s'ils étaient proches au premier degré, il y aurait ici une interdiction midoraita, minatora. Bechalutza, par contre, s'il s'agit d'une personne, d'une candidate au Iboum à laquelle nous avons fait Khalitsa, lo Gazru Rabbanan Shniot, les Chachamim n'ont pas interdit les membres de la famille proches au second degré, parce que de toute façon, même ceux qui sont proches au premier degré ne sont interdits que midrabanan. Odilma, loshana, ou bien peut-être qu'il n'y a pas de différence, les chachamim ont interdit les membres de la famille proches au second degré dans tous les cas. Alors, la Gemara dit, tashma, viens écoute une preuve de notre Mishnah. Hu asur beima ou beimima. La Mishnah nous enseigne qu'il n'aura pas le droit de se marier avec la mère ni avec la grand-mère maternelle de celle dont il avait fait la Khalitsa. Et cela, c'est des cas où si elle avait été sa femme, il y aurait ici une interdiction minatora. Veilu mm ima lokatane. Voici que l'arrière-grand-mère maternelle n'a pas été enseignée dans la Mishnah, qui elle est considérée comme une proche au second degré. Donc nous voyons que celles qui sont proches au second degré n'ont pas été interdites midrabanan dans le cas d'une chalutza. L'agma répond, Dilma haynutama de lotane. Peut-être que la raison pour laquelle la Mishnah ne nous a pas parlé de l'arrière-grand-mère, mishum de kabaile mitnesefa, parce que dans la Mishnah veut nous enseigner par la suite que les frères ont le droit de se marier avec les membres de la famille de la Khalutsa. Ve'itana mm ima. Ici, dans la Mishnah, il avait été question de la grand-mère. Havamina achimutarim davka be'mm ima. J'aurais pu penser que quand la Mishnah nous enseigne que les frères de celle qui a fait la Khalutsa peuvent se marier avec les membres de la famille de celle qui a fait la Khalitsa, on aurait cru que la Mishnah nous permet que l'arrière-grand-mère, qui en général est considérée comme une proche au second degré, aval be'em ima ou be'ima, par contre, avec la grand-mère maternelle ou avec la mère, là la Mishnah n'aurait pas permis les frères de se marier avec les proches, donc du premier degré, comme la mère et la grand-mère. La Gemara demande, Velipne M. Ima, la Mishnah n'avait qu'à enseigner que la grand-mère est interdite sur celui qui a fait la Khalitsa, Velipne Ha'achimutarim Mekulam, et que la Mishnah enseigne par la suite que les frères ont le droit de se marier avec tous les membres de la famille. La Gemara dit, Kashia, c'est une question que à propos duquel la Gemara n'avait pas trouvé de réponse à ce moment-là. En tout cas, la Gemara estime ici qu'il n'y a pas de preuve décisive. Nous restons donc avec la même question. Est-ce que les Chachamim ont interdit les seuls qui sont proches au deuxième degré avec celui qui a fait la Khalitsa au même titre que si elle avait été sa femme? C'est-à-dire pour ne pas qu'on la confonde avec celle qui avait uni par le mariage. Maintenant, nous avons la Gemara va apporter plusieurs preuves de la Mishnah et d'ailleurs. Ce qui nous reste donc à expliquer, est-ce que la raison pour laquelle la Khalutsa n'a pas le droit de se marier avec la personne qui a été interdite, c'est à cause de son lien avec celui qui a fait la Khalitsa, et donc nous verrons par là une preuve que celles qui sont proches au second degré sont interdites des Rabbanan aussi pour ceux qui ont fait la Khalitsa, ou bien c'est à cause du lien du lien de parenté avec celui qui est mort, et par conséquent, c'était interdit. De toute façon, Midera Rabbanan, à cause de ce lien qu'elle a, et ce n'est pas à cause de la Khalitsa. Nous bandons donc à expliquer dans tous ces cas la nature de ce lien, et si c'est une interdiction, Minatora ou Midera Rabbanan. Tashma, eh bien écoute une preuve de la Mishnah. Hi Asura Be'aviv ou Be'avi Aviv. Celle qui a fait la Khalitsa n'aura pas le droit de se marier avec le père de celui qui a fait la Khalitsa ou avec son grand-père paternel. Katane Mihat Avi Aviv. Voici donc que la Mishnah interdit le grand-père de celui qui a fait la Khalitsa de se marier avec celle qui a fait la Khalitsa. Mailav Mishum Choles. N'est-ce pas que c'est à cause de son lien de parenté avec celui qui a fait la Khalitsa, de Havé Alekalad Beno? Donc elle est considérée comme étant la belle-fille du fils de celui qui a fait la Khalitsa. Et donc nous voyons une preuve que ceux qui sont proches au second degré sont interdits Midrabanan dans le cas de celle qui a fait la Khalitsa. Agma répond, l'eau, ce n'est pas une preuve. Mishum Mitna, c'est à cause de son lien de parenté avec celui qui est mort. En effet, celui qui est mort et celui qui a fait la Khalitsa avaient le même père, par conséquent, donc le même grand-père paternel, Dehaviala Kalad Beno. Celle qui a fait la Khalitsa a un lien de parenté avec le grand-père de celui qui a fait la Khalitsa et qui était aussi le grand-père de son premier mari. En effet, elle était la belle-fille de son fils. Par conséquent, nous n'avons toujours pas de preuve à savoir est-ce que celles qui sont proches au second degré sont interdites sur celui qui a fait la Khalitsa. Tashma, viens écouter une autre preuve. Ube ben Beno. La Mishnah interdit celle qui a fait la Khalitsa de se marier avec le petit-fils, le fils du fils de celui qui a fait la Khalitsa. Mailav Mishum Choles, n'est-ce pas que c'est à cause de son lien de parenté avec celui qui a fait la Khalitsa, de Haviala Eshet Aviaviv, elle est considérée comme étant la femme du grand-père paternel, qui est une interdiction au Midera Banal. L'eau, la Gemara dit non, ce n'est pas à cause de ça que la Mishnah interdit de se marier avec le petit-fils de celui qui a fait la Khalitsa, mais Mishum Mitna, c'est à cause de son lien de parenté avec son premier mari, le premier frère qui est mort. Vahaviala, Eshet Achi Aviv, elle est, en effet, parce qu'elle avait été mariée avec son premier mari, elle est, par rapport au petit-fils de celui qui a fait la Khalitsa, la femme du frère du grand-père paternel, donc la femme du grand-oncle. C'est une interdiction aussi, Midrabana. La Gemara demande, Ha, Mema, Marcher, Eshet Achi Aviv. Voici qu'Amema permet de se marier avec la femme du frère du grand-père paternel, donc avec la femme du grand-oncle. Donc finalement, la raison pour laquelle la Mishnah aurait interdit celle qui a fait la Khalitsa de se marier avec le petit-fils de celui qui a fait la Khalitsa, c'est à cause de son lien avec celui qui a fait la Khalitsa. Par conséquent, nous aurions d'ici une preuve que celles qui sont proches au second degré sont interdites aussi dans le cas d'une Khalitsa. La Gemara répond, Amema Mokila Ben Barbera de Saba. Amima interpréterait la Mishnah d'une manière différente. En fait, quand la Mishnah interdit le petit-fils, il s'agit du petit-fils du grand-père, donc le petit-fils du fils du père de celui qui a fait la Khalitsa. Il s'agit donc d'un neveu de celui qui a fait la Khalitsa. La Gemara demande, Yahi, si c'est comme ça, Haïnou Achiv ou Ben Achiv. Voici que la Mishnah nous a déjà enseigné que celle qui a fait la Khalitsa n'a pas le droit de se marier avec le frère de celui qui a fait la Khalitsa, ni avec le fils de son frère, donc son neveu. Ça a déjà été enseigné une autre fois. Donc pourquoi est-ce que la Mishnah, selon cette interprétation, aurait besoin de nous enseigner encore une fois que celle qui a fait la Khalitsa n'a pas le droit de se marier avec le petit-fils du grand-père? Donc finalement, nous serions obligés de dire que quand la Mishnah interdit celle qui a fait la Khalitsa de se marier avec son petit-fils, il s'agit du petit-fils de celui qui a fait la Khalitsa à cause de son lien avec celui qui a fait la Khalitsa. Nous verrions donc de là une preuve que les Chachamim ont interdit les proches au second degré dans le cas d'une Khalitsa. L'Agma répond, toujours pourrais-je te dire que quand la Mishnah parle du petit-fils, il s'agit du petit-fils du grand-père, donc du neveu de celui qui a fait la Khalitsa. Mais, et Tana Achiv Minahav, la Mishnah nous parle ici du frère par le père, donc du fils du frère par le père. Par conséquent, le lien de la Ebama, donc de celle qui a fait la Khalitsa, avec le neveu de celui qui a fait la Khalitsa, parce qu'en fait, par rapport à son premier mari, c'était la femme du frère de son père, la femme de son oncle, qui est une interdiction minatora. De katane achiv minaem, quand la Mishnah parle d'interdire le frère ou le fils du frère, il s'agit du frère par la mère. Là, c'est aussi une autre interdiction. En effet, le frère, c'est le frère par la mère, c'est une interdiction minatora. Et quand la Mishnah parle du fils du frère, il s'agit du fils du frère par la mère, c'est une interdiction midérabanane, mais c'est à cause du lien de parenté avec celui qui est mort. Tashma. Voyons voir une autre preuve. Et Tané Rabbi Chia a enseigné que la Ebama n'a pas le droit de se marier avec les différents membres de la famille. Il y a Arba Midibre Torah, Arba Midibre Sofrim. Il y a quatre personnes qui sont interdites Minatora et quatre Midérabana. La Braïta énumère. Av, elle n'a pas le droit de se marier avec le père de celui qui a fait la Khalitsa, qui est aussi le père de son premier mari. En effet, elle est sa belle-fille. Ubeno, elle n'a pas le droit non plus de se marier avec le fils de celui qui a fait la Khalitsa. En effet, par rapport à lui, c'est la femme de son oncle, du frère du père. C'est aussi une interdiction minatora. Achim, elle n'a pas le droit non plus de se marier avec le frère de celui qui a fait la Khalitsa. En effet, c'est la femme du frère, c'est une interdiction minatora. Uben Achim, elle n'a pas le droit non plus de se marier avec le fils d'un autre frère, parce que aussi, par rapport à son premier mari, elle est la femme du frère du père et la femme de son oncle. Midibre Torah, c'est une interdiction minatora. Dans la Bretagne, énumère les quatre cas midérabanan que la Gemara expliquera par la suite. Avi Aviv, Davi Imo, son grand-père paternel ou son grand-père maternel, Ben Beno Ben Bito, aussi le petit-fils de celui qui a fait la Khalitsa, soit si c'est le fils de son fils, soit si c'est le fils de sa fille. Tout cela, Midibre Sofrim, ce sont le cas midérabanan. Katane Miha, Avi Aviv, voici qu'il a donc été écrit enseigné dans cette Breita, le grand-père paternel. Maïla Mishum Cholet, n'est-ce pas que c'est à cause du lien de parenté avec celui qui a fait la Khalitsa, Vahavialah Kalat Beno, et par conséquent, il est considéré comme étant la belle-fille de son fils. Et nous voyons donc que les Chachamim ont interdit les proches au second degré par rapport à celui qui a fait la Khalitsa. L'Agma répond, l'eau, ce n'est pas une preuve, parce que Mishum Mitna, c'est à cause de son lien de parenté avec celui qui est mort. Parce que puisqu'il s'agit du même père, donc celui qui a le premier mari et celui qui a fait la Khalitsa avaient le même père, et donc par rapport au lien de parenté qu'a celle qui a fait la Khalitsa avec le grand-père de celui qui a fait la Khalitsa, qui est aussi le grand-père paternel de son premier mari, Dehavialé, la Kalat Beno, elle était la belle-fille de son fils, qui est une interdiction midérabanane, mais à cause de son premier mari. Tashma, viens écoute une autre preuve. Avi Imo, son grand-père maternel. Maïlav Mishum Choles, n'est-ce pas que c'est à cause de son lien de parenté avec celui qui a fait la Khalitsa de Haviala Kalat Bito? En fait, par rapport à lui, ce grand-père, cette Khalitsa, celle qui a fait la Khalitsa, est la belle-fille de sa fille. Et nous voyons donc de là que les Chachamim ont interdit les proches au second degré dans le cas d'une Khalitsa. Et moi répond, lo, Mishum Mitna. Ce n'est pas une preuve. La raison pour laquelle elle est interdite de se marier avec la grand-mère maternelle, le grand-père maternel de celui qui a fait la Khalitsa, c'est à cause de son lien de parenté avec son premier mari qui est mort. En effet, il s'agit dans un cas où celui qui a fait la Khalitsa avait le même père et la même mère que son premier mari. Donc, le lien de parenté de celle qui a fait la Khalitsa avec le grand-père maternel de celui qui a fait la Khalitsa, qui était aussi le grand-père maternel de son premier mari, Dehaviala, Kalabito, c'est la belle-fille de sa fille, qui est une interdiction midrabanan, mais par rapport à son premier mari. Tashma, bien écouter une autre preuve, ou Ben Beno, la Braïta interdit aussi celle qui a fait la Khalitsa de se marier avec le petit-fils, le fils du fils de celui qui a fait la Khalitsa. Maïlav Mishum Cholet, n'est-ce pas que c'est à cause de son lien de parenté avec celui qui a fait la Khalitsa? De Haviala Eshet Aviaviv, donc elle est considérée comme étant la femme de son grand-père paternel. Donc nous voyons d'ici que les Chachamim ont interdit les proches au second degré dans le cas d'une Khalitsa. La Gemara répond l'eau. Ce n'est pas une preuve, Mishum Mitna, c'est à cause de son lien de parenté avec son premier mari qui est mort. De Haviala Eshet Aviaviv, en fait, elle est la femme du frère du grand-père paternel, du petit-fils de celui qui a fait la Khalitsa. C'est-à-dire, en fait, c'est la femme de son grand-oncle. Là, ce serait aussi une interdiction midrabanan par rapport à son premier mari. La Gemara demande, Beha Amemar Marchir Beeshet Achi Avi Aviv. Voici qu'Amemar permet de se marier avec la femme du père, du frère du grand-père paternel, c'est-à-dire avec la femme du grand-oncle. Donc finalement, il y a la seule raison pour laquelle on interdirait celle qui a fait la Khalitsa de se marier avec le petit-fils de celui qui a fait la Khalitsa, c'est à cause de son lien de parenté avec celui qui a fait la Khalitsa. La Gemara répond effectivement, Amimar Mokimla Mishum Cholet. Amimar interprète ces paroles de la Braïta, que la raison pour laquelle celle qui a fait la Khalitsa n'a pas le droit de se marier avec le petit-fils de celui qui a fait la Khalitsa, à cause de son lien de parenté avec celui qui a fait la Khalitsa. Veka Savar, Gazru Shinot Bechalutsa, et Amimar pense que les Chachamim ont interdit les proches au second degré de se marier avec celle qui a fait la Khalitsa. Mais ceux qui discutent avec Amemar pourront toujours interpréter que la raison pour laquelle elle n'a pas le droit de se marier avec le petit-fils de celui qui a fait la Khalitsa, c'est à cause de son lien de parenté avec son premier mari. Tashma vient coûte une autre preuve, Ube Ben Bito. La Braïta interdit aussi celle qui a fait la Khalitsa de se marier avec le fils de la fille de celui qui a fait la Khalitsa. Maïla Mishum Cholet, n'est-ce pas que c'est à cause de son lien de parenté avec celui qui a fait la Khalitsa, de Habiala Eshet Avimo, parce qu'elle est considérée par rapport à ce petit-fils, donc le fils de la fille de celui qui a fait la Khalitsa, comme étant la grand-mère, la femme du grand-père maternel. La Gemara répond, lo, Mishum Mitna. Non, c'est pas à cause de ça qu'elle n'a pas le droit de se marier avec le fils de la fille de celui qui a fait la Khalitsa, mais à cause de son lien de parenté avec son premier mari qui est mort. Dehaviala, Eshet Achi Avi Imo, parce qu'elle est la femme du frère de son grand-père maternel. La Gemara demande, Vehaga Beshniot Dervalo Gazrou, voici que les Chachamim n'ont pas interdit de se marier avec la femme du frère du grand-père maternel, donc avec le grand-oncle maternel. Donc la seule raison est la lave, Mishum Cholet, n'est-ce pas que la raison pour laquelle celle qui a fait la Khalitsa n'a pas le droit de se marier avec la fille du fils de celui qui a fait la Khalitsa, c'est à cause de son lien de parenté avec celui qui a fait la Khalitsa, elle est considérée comme étant la femme du grand-père maternel. L'Agma répond, Ushma Mina Gazru Shinot Bechalutsa, donc nous dirons de là que les Chachamim ont interdit de se marier avec les proches au second degré dans le cas d'une Khalitsa. Ushma Mina, l'Agma a dit effectivement, c'est une bonne preuve. L'Agma reprend le passage de la Mishnah qui dit, Mutar Adam Bekrovat Sarat Khalutsato, une personne a le droit de se marier avec les membres de la famille de la rivale de celle qui a fait la Khalitsa. Amarab Tuvi Bakisna Amar Shmuel, Haba Al Sarat Khalutsa, Havlad Mamzer. Celui qui a une relation avec la rivale de celle qui a fait la Khalitsa, elle était aussi mariée à son frère, et par conséquent, il a une relation avec la femme de son frère, et l'enfant est considéré comme étant mamzer. Maïtama, pourquoi? Beissura Kaima, elle a gardé son interdiction d'être la femme du frère. À l'instar de celle qui a fait la Khalitsa, pour elle, cet interdit de femme du frère a été levé, puisqu'elle pouvait aussi faire le hiboum. Et puisqu'elle a choisi de faire la Khalitsa, elle ne garde que l'interdiction d'un assez. Le pasouk avait dit, Asher lo yivnet betachiv, celui qui ne construira pas la maison de son frère. De là, nous avons déduit qu'une fois qu'il a choisi de ne pas construire la maison de son frère, donc de ne pas faire le hiboum, il n'aura plus le droit de le faire. Mais pour celle qui n'a pas fait la Khalitsa, donc sa rivale, là, l'interdiction de la femme du frère reste. Amar Rav Yosef a dit, Afanen Namitanina, nous avons aussi ainsi enseigné dans notre Mishnah. Mutar Adam et Krovat Sarat Khalutsato, une personne a le droit de se marier avec les membres de sa famille, de la famille, de la rivale, de celle qui a fait la Khalitsa. Yamar Bishlama Tsara Abraï, si tu dis que la rivale est à l'extérieur, en d'autres termes, nous considérons que celle, que la rivale de celle qui a fait la Khalitsa n'est pas comme celle qui a fait la Khalitsa, elle est considérée comme quelqu'un qui n'a absolument rien reçu. Mishumachim Mutar Bechota, c'est pourquoi il a le droit de se marier avec sa sœur ou les autres membres de sa famille. Parce qu'on n'a pas, il n'y a pas à la confondre avec celle qui avait été unie par un lien de mariage. Et là, Yamar, Sarah, Kechalut, Adam, Ya. Par contre, si tu dis que celle, la rivale de celle qui a fait la Khalitsa est considérée comme celle qui a fait la Khalitsa, c'est-à-dire que celle qui a fait la Khalitsa l'a fait aussi pour le profit de sa rivale. Amay Mutar, pourquoi est-ce qu'il aura le droit de se marier avec les membres de la famille de la rivale de celle qui a fait la Khalitsa, puisque finalement, elle est considérée aussi comme ayant reçu la Khalitsa, elle devrait être interdite. Donc, au même titre, la Gemara demande, Lema Tehavé Tchufta de Rabbi Yochanan, n'est-ce pas que d'ici nous verrons une question contre l'avis de Rabbi Yochanan, de Amar qui dit, Ben Hu Ben Achim, En Chayavim, Lo Al Chalutza Karet, Velo Al Tzarata Karet. Une fois que la Khalitsa a lieu, ni celui qui a fait la Khalitsa, ni ses frères, ne seront passibles de la peine de Karet, ni pour celle qui a fait la Khalitsa, ni pour sa rivale. En d'autres termes, une fois que la Khalitsa a eu lieu, puisque au départ, elles étaient toutes les deux candidates pour le Yiboum, l'interdit donc de la femme du frère a été levé. À la suite de la Khalitsa, il n'y a que l'interdiction de la Torah qui dit que celui qui n'a pas construit la maison de son frère ne pourra plus le faire. Alors, puisque dans notre Mishnah, nous voyons que la rivale de celle qui a fait la Khalitsa n'est pas considérée comme celle qui a fait la Khalitsa, donc au moins pour la rivale de celle qui a fait la Khalitsa, il devrait avoir un karet. L'Agma répond, Amar le Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan te répond, Revitis Bera, est-ce que c'est logique d'apporter une preuve de notre Raïta? Est-ce que Achot Khalutsa de Raïta, est-ce que la sœur de celle qui a fait la Khalitsa est interdite mina Torah? Beha Amar Resh Lakish, voici que Resh Lakish a dit à propos de la Mishnah qui suit dans le daf suivant. Kan Shana Rebi Achot Isha Midivre Torah, voici que ici Rebi a enseigné que la sœur de la divorcée est interdite, minatora, achot chalutza, midivre sofrim, la sœur de celle qui a fait la chalitza est interdite, que n'est interdite que midirabanan. Donc, puisqu'il en est ainsi, il est très possible de dire que les chachamim ont interdit de se marier avec la sœur de celle qui a fait la chalitza pour ne pas qu'on la confonde avec la sœur de celle qui lui avait été mariée, mais pour la rivale, c'est-à-dire la rivale de celle qui a fait la chalitza, il est possible que les chachamim n'ont pas fait d'interdiction, parce que là, elle ne sera pas confondue avec elle. La Gemara demande, Maishnahai ou Maishnahai, quelle est la différence entre celle-ci et celle-ci? C'est-à-dire, dans la Mishnah, nous avons vu qu'une personne avait le droit de se marier avec les membres de la famille de la rivale de celle qui a fait la Khalitsa, et il était interdit de se marier avec la rivale des membres de la famille de celle qui a fait la Khalitsa. Okay.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi, quotidiennement en vidéo.